Histoire d'archives, notre émission mensuelle, cette fois en compagnie de Jean-Christophe Labadie, directeur des archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, et Marie Brunel Marchetti, directrice adjointe des archives départementales. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors on vous accueille aujourd'hui en cette rentrée 2026 pour faire un petit point sur l'actualité des archives départementales. Qui veut commencer pour nous donner un petit peu des nouvelles des archives et du programme à venir en septembre?
Eh bien, je vais vous donner des nouvelles du programme culturel où nous reprenons nos activités, enfin, que nous n'avons jamais vraiment arrêtées, vu que l'été a été extrêmement riche en conférences sur l'ensemble du département, essentiellement menées par notre directeur Jean-Christophe Labadie. Mais nous allons reprendre nos activités aux archives dès le mois de septembre. Alors pour commencer avec les expositions, vous pouvez toujours venir voir l'exposition Les archives entrent en scène, donc sur les métiers des archives et puis quelques documents et trésors insolites que nous conservons aux archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence. Nous avons aussi jusqu'au 11 septembre l'exposition « Les métiers d'autrefois » du 12e au 20e siècle. Et à la cathédrale Saint-Jérôme, vous pouvez encore aller voir l'exposition « Jeanne d'Arc » sur l'histoire de cette héroïne nationale béatifiée, canonisée, voilà, cette figure emblématique de la France et d'une certaine forme de patriotisme, donc jusqu'au 30 septembre. Par la suite, à partir du 18 septembre, vous pourrez venir, et jusqu'au 30 octobre, vous pourrez venir voir l'exposition Capter la lumière, l'aventure de la photographie en Haute-Provence, que nous organisons dans le cadre du bicentenaire de l'invention de la photographie. On pourra en reparler par la suite. Et notre dernière exposition de l'année commencera le 9 novembre jusqu'au 8 janvier. Elle se portera sur la bibliothèque des archives départementales. Voilà pourquoi nous avons une bibliothèque contenant des volumes aussi prestigieux pour certains, insolites aussi, et pourquoi les services d'archives ont aussi une bibliothèque. Outre ces expositions, nous avons aussi un certain nombre de conférences et de lectures d'archives, donc qui vont reprendre dès le mois de septembre. Nous avons donc, tout d'abord, c'est une lecture d'archives autour de l'école d'autrefois, donc au Castellet et dans les Basses-Alpes, donc qui aura lieu au Castellet à la salle polyvalente le jeudi 3 septembre à 18h. Ensuite, nous aurons une lecture musicale aux archives départementales, alors le jeudi 10 septembre à 18h, autour des métiers d'antan. Donc, cette lecture musicale sera animée par les comédiens et musiciens de Bazar Compagnie. Ensuite, ça c'est notre gros programme pour le mois de septembre, nous aurons les journées européennes du patrimoine. Donc, qui seront inaugurées le vendredi 18 septembre 2026 à 18h par une conférence de Élise Henrion sur un cimetière communautaire oublié, la fouille archéologique du cimetière juif médiéval de Manosque. Donc, pas après cette conférence inaugurale du vendredi, le samedi, vous pourrez assister à des visites guidées, donc par moi-même, à 10h et à 14h, sur réservation parce que les places sont limitées. Vous aurez aussi un atelier découverte de la reliure par notre restaurateur relieur Pierre Chaland. Donc à 10h30, 12h, 13h30 et 15h. Et nous aurons aussi une conférence sur la restauration de documents d'archives par Amandine Verdant, qui est une relieuse et restauratrice professionnelle. Donc là, ce sera le samedi 18 septembre à 15h. Bien sûr, vous pourrez visiter de façon libre les expositions des archives départementales. Et le dimanche 20 septembre, donc à 15h, à la cathédrale Saint-Jérôme de Digne-les-Bains, Jean-Christophe Labadie animera une visite guidée de l'exposition Jeanne d'Arc. Voilà. Et nous aurons, après nous reprendrons notre programme habituel avec des conférences, mais on en parlera sans doute une prochaine fois.
Jean-Christophe Labadie, est-ce que vous voulez compléter?
Oui, alors, il y a donc ce qu'il y a dans le programme, et puis il y a ce qui n'est pas encore dans le programme, enfin, qui ne sera pas dans le programme, mais qui est quand même programmé, puisque il y a d'autres conférences, alors qui ont été... vous savez, c'est toujours la difficulté de programmer des activités culturelles. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, nous, on travaille au long cours quand même. On a besoin d'avoir un peu de délai. Et donc, souvent, en ce moment, par exemple, on prépare le programme de l'année prochaine, en fait, hein, du premier semestre de l'année prochaine. Et déjà, d'ailleurs, la grille est déjà bien remplie, hein, en particulier des conférences, mais aussi des lectures d'archives, etc. Il y a aussi des actions culturelles qui s'imaginent un peu au dernier moment, voilà, pour dire, voilà, pour en fonction des besoins, des demandes, etc. Et donc il y a d'autres conférences. Alors moi, en ce moment, je travaille spécialement sur les cadastres d'Ancien Régime, sur le cadastre révolutionnaire et sur le cadastre napoléonien, donc les trois grands types de cadastres pour le, on va dire, 16e début 19e siècle, donc pour les communes de Pépin, les communes de Thorame-Haute et les communes de la Jabie. Voilà, donc je suis dans ces trois domaines. Donc alors, je deviens un petit peu un spécialiste des cadastres. Alors, ce que j'étais, en fait, en l'occurrence, quand j'ai fait mes études, puisque j'ai fait mon DEA, mon diplôme d'études approfondies sur les cadastres, alors c'était les cadastres seigneuriaux en Dordogne et le cadastre napoléonien. Donc voilà, je reviens, en fait, à mes premières amours. D'une certaine manière, en fait, c'est des documents que j'aime beaucoup manier, c'est tout à fait passionnant. Alors j'en ai un qui doit peser à peu près 25 kilos sur mon bureau, qui fait 50 centimètres sur 40, vous voyez, avec je ne sais combien de centaines de pages, voilà, avec un papier très épais, de très bonne qualité, papier chiffon, hein, comme on le faisait sous l'Ancien Régime, fait dans des moulins à papier, et donc je suis en train de travailler. Donc, alors là, ces derniers jours sur Pépin. Alors en fait, c'est une commande d'une association, hein, donc du patrimoine de Pépin, qui souhaitait à l'origine que je m'intéresse aux bons enfants. Alors tout le monde connaît les bons enfants parce que quasiment tout le monde y passe quand on va à Sisteron, hein, quand on prend la route nationale pour se rendre à Sisteron, on passe aux bons enfants. Et donc c'est un peu une gageure d'essayer de trouver l'origine du mot, du nom, du toponyme, hein, du nom de lieu, les bons enfants. Donc c'est parti de là. Et en partant de là, ben, la première chose, c'est que j'ai commencé à travailler avec les cartes anciennes, hein, qu'on trouve dans nos fonds, mais aussi sur Internet, hein, Géoportail, qui est d'ailleurs en train de se déplacer sur un autre site. Donc on a les cartes de Cassini, cartes d'état-major, etc. Donc ce qui a permis de voir comment les lieux ont été nommés à certaines époques, hein, donc 18e, 19e, des documents qui sont dans nos archives, donc en l'occurrence les cadastres d'Ancien Régime. Alors les cadastres d'Ancien Régime, c'est tout simplement les cadastres, ce sont des documents fiscaux pour le paiement de la taille royale, et donc ça concerne les terres roturières, hein, uniquement, pas les terres nobles, puisque les terres nobles en Provence ne supportent pas la taille, hein, puisque c'est ce qu'on appelle la taille réelle, donc c'est la terre, le statut de la terre qui fait la taille. Donc toutes les terres roturières qui sont donc énumérées par possesseur, hein, donc par détenteur, avec donc une description, alors qui peut être selon les périodes plus ou moins détaillée. En général, donc il y a le nom de la personne, le lieu, la nature, le lieu, donc une terre, un pré, un relague, etc. Et donc il y a tous les termes anciens aussi du vocabulaire rural de l'époque. Et puis donc quelquefois la contenance. Hein, donc alors ici c'est en canne. Et puis donc après, par rapport à des critères qui sont assez compliqués, que je ne peux pas expliquer parce que j'en ai pour 20 minutes, des critères en fonction de la nature du terrain et de sa qualité, hein, il y a des classes en fait, eh bien, il y a un abonnement en fait, hein, donc une évaluation qui est faite de ce que ça représente en termes de valeur. Et à la fin, donc, pour la cote de la personne, il y a un total, et un total général pour la communauté. Et en fonction de la taille qu'on doit payer, des besoins, on décide de lever tant de deniers par livre cadastral. Voilà. Donc, hein, alors chaque, ça change selon les années, selon les besoins de la communauté, selon aussi ce qu'on doit donner comme impôt au roi, parce que ça sert aussi à faire vivre la communauté. Hein. C'est pas seulement pour, la, pour le, l'impôt royal. Et donc, on a cette cote. Alors, c'est évidemment très précieux parce qu'on a tous les toponymes anciens. Qui sont, c'est très détaillé, c'est très précis. En fait, quand on regarde les cartes actuelles, on s'aperçoit, même le cadastre actuel, qu'on a perdu beaucoup, beaucoup de noms. Quelquefois, le champ a un nom, vous voyez, qu'évidemment n'est pas passé à la postérité, parce que les choses, évidemment, les évolutions culturelles, techniques, etc., ont fait que ce n'est plus, ça n'a plus de sens aujourd'hui d'avoir une si grande précision dans les toponymes, mais en l'occurrence à l'époque ça avait beaucoup d'importance parce que c'est ce qui permettait de localiser en il n'y a pas de plan hein, donc il fallait bien trouver un système, donc il y a aussi d'ailleurs j'ai oublié les confrontations hein, donc du levant, du midi, du couchant, du septentrion, donc savoir comment qu'est-ce qu'il y a autour hein, qu'est-ce qui délimite en fait un fonds est délimité parce qu'il y a autour de lui, en fait, hein, et non pas par lui-même, comme aujourd'hui. Hein, puisqu'aujourd'hui, on a des limites qui sont précises. Voilà, donc on a des toponymes qui permettent de répondre à la question des bons enfants, puisque c'est ça ma question. Et en réalité, alors je ne vais pas dévoiler, hein, évidemment, parce que je pense avoir trouvé une partie de la solution, pas encore totalement, mais ça a un rapport avec le seigneur du lieu, le seigneur de Pépin, qui était Le Camus, une famille Le Camus depuis le XVIIe. Et c'est un rapport aussi avec une hostellerie hein, donc, qui était donc aux bons enfants, avec la reprise d'un nom beaucoup plus ancien et qui donc donnait lieu à une enseigne hein, qui était donc les bons enfants, qui était... qui était donc un lieu qui était tout à fait fréquenté. Et donc on retrouve dans les archives, parce que là après on sort des cadastres d'Ancien Régime, on part cette fois-ci dans les archives notariales, puisqu'on a aussi, on oublie souvent, mais les notaires, les minutes notariales et les registres notariaux sont des archives publiques. Donc on en a une collection, je crois qu'on a plus de 25 000 volumes de registres notariaux. Et donc après on va dans les notaires, chez les notaires, hein, on cherchait dans les registres notariaux pour retrouver des documents qui ont trait à la vie économique du lieu et en l'occurrence les baux, alors qu'on appelle à l'époque des arrentements, hein, puisque ça produit une rente, donc des arrentements qui sont faits par le propriétaire de cette hostellerie hein, qui loue à des fermiers en fait hein, qui vont exploiter voilà, et donc on a je vais retrouver évidemment une grande collection, en fait c'est infini hein, je pourrais continuer, bon je vais arrêter parce que j'ai pas que ça à faire aussi hein, et puis j'ai trouvé la solution donc, mais je l'ai trouvé pour la partie fin 17e et pour la partie 1750 jusqu'à la Révolution, voilà, et après évidemment, donc ça c'est pour la partie Ancien Régime. Après il y a la question comment le lieu devient les bons enfants, puisqu'en fait aujourd'hui je ne dirais pas le nom ancien, hein, puisque je le garde pour la conférence, mais pourquoi ce nom a finalement pris la place du vrai nom, de celui qui était le vrai nom local, qui a complètement disparu, en fait, hein, qu'on ne retrouve plus dans les cadastres aujourd'hui, ça c'est une autre question, et donc ça renvoie au cadastre enfin, aux documents cadastraux qui ont été faits pendant la Révolution, qui reprennent un peu en fait ce qui avait été fait sous l'Ancien Régime, parce qu'il a fallu improviser pour la contribution foncière en particulier, et donc aller vite, hein, parce qu'il fallait que les impôts rentrent hein, quand même. Hein. Les révolutionnaires n'avaient pas imaginé d'aller aussi vite dans les réformes, hein, donc voilà. Et après, donc voir comment dans le cadastre apollinien comment ça apparaît à Pépin, donc voilà. Donc ça c'est un premier point. Je travaille aussi, mais ça j'ai pas encore tellement avancé sur le cadastre de la Javie, hein, comme je vous le disais. Alors ça sera une conférence qui sera faite, vous savez, dans le cadre de le 1er novembre, dans le cadre de la foire de la poire Sarto, hein, donc à 10h le matin dans l'église. puisque au même endroit que l'année dernière, puisque j'avais déjà fait une conférence sur les arbres fruitiers, sur les fruits et les arbres fruitiers, dans le cadre de cette même organisation. Voilà, donc je suis très content de, évidemment, recommencer. Hein, c'est très sympathique, il y avait beaucoup de monde, c'était très agréable. J'espère qu'on n'aura pas la pluie comme l'année dernière, parce qu'on a eu une pluie absolument énorme, ce qui explique peut-être la fréquentation, hein, d'ailleurs, de l'église. Parce que les gens se sont peut-être tout simplement réfugiés pour être à l'abri de cette pluie diluvienne, hein, qui était tombée au moment, peut-être que je l'avais commandé d'ailleurs, hein, pour justement avoir beaucoup de monde lors de cette conférence. Voilà. Donc ça, c'est pour la JAVI. Donc là, pour le moment, j'en suis encore au premier à repérer les documents. Donc, et en particulier donc, ces fameux cadastres d'Ancien Régime, puisque ça sera le sujet. En fait, le sujet, ça sera la question en fait, de l'égalité fiscale, hein, qui est la question posée fondamentale par la Révolution française. Donc en fait, mon sujet, c'est d'aller de l'Ancien Régime au début du 19e, de voir comment les révolutionnaires et puis ensuite les gouvernements ont essayé de résoudre cette difficulté, ce problème qui était celui de l'égalité fiscale. Voilà, donc c'est ça le sujet. Donc là, je dépasse le cadre simplement d'un toponyme, hein, évidemment, ça... Ça. L'intérêt aussi, c'est que pour le public, qui est un public local, hein, pour l'essentiel, ça évidemment, ça renvoie au nom, aux anciens noms de lieux, au nom des personnes, vous voyez, donc ça renvoie des souvenirs, renvoie des histoires, voilà, donc c'est plutôt sympathique, hein, puisque c'est pas la première fois que je fais des conférences sur les cadastres, ça paraît comme ça un petit peu austère au premier abord, de prime abord, en réalité... c'est très vivant, on voit presque les gens vivre, vous voyez, s'écharper aussi pour des questions de territoire, ça c'est à moi, ça c'est pas à moi, enfin, vous voyez, et puis aussi pour obtenir des réductions d'impôts, hein, parce qu'il y a des difficultés. Ça c'est aussi l'un des intérêts de ces recherches, en travaillant sur, par exemple, sur Pépin, donc je retrouve aussi, comment dire, la vie seigneuriale, en fait, hein, la vie locale, qui est très influencé par le seigneur, hein, qui revendique ses droits, qui touche sur chaque transaction, ce qu'on appelle les lots et ventes, un impôt, qui fait faire des reconnaissances féodales pour récupérer. Alors c'est, des fois c'est dérisoire, mais c'est simplement symbolique, hein, c'est montrer sa préséance sur la communauté, voir aussi quelquefois quand... moi je suis étonné, ces fermiers ont du mal des fois à s'en sortir financièrement, qu'en fait le fermier sort moins riche de sa ferme qu'il ne l'était au début. Et quelquefois, donc, il ne peut même pas payer l'argent, le capital qu'on lui a donné au départ, parce qu'en fait, c'est un système un peu particulier. C'est pas exactement un fermage, c'est un mélange de fermage-métayage. C'est-à-dire qu'en fait, le propriétaire fournit un capital de départ au fermier, parce que quand on prend, par exemple, une hôtellerie, hein, il n'y a pas que l'hôtellerie, il y a un domaine avec, hein, un domaine rural, et donc il fournit normalement une paire de bœufs pour labourer, il fournit des chèvres, des moutons, quelquefois même des porcs, etc. Et donc à la fin, évidemment, des semences, des instruments aratoires, et à la fin, il faut que le fermier... redonne exactement ce qu'il a reçu. Et quelquefois, il est dans l'incapacité de le faire. Et donc, on voit les négociations pour le seigneur qui accepte de différer la dette, mais avec des contreparties très importantes, et en l'occurrence, des mises en seigneurie de biens. Donc, il se crée en fait une rente perpétuelle sur une dette. Voilà. Donc, c'est tout ça, ce sont des techniques d'enrichissement. Hein. Parce qu'on voit aussi ça, on voit aussi ceux qui s'enrichissent, qui bénéficient en fait du beau 18e siècle, hein, qui est un siècle, par rapport au 17e, qui est quand même... un siècle de progrès, production agricole, etc. Même si il y a un ouvrage sur ça qui s'appelle Les faux semblants d'un décollage économique, voilà, qui est un ouvrage qui avait fait date à l'époque, qui remettait un peu en question cette thèse. Donc on voit tout ça dans les documents notariaux. Hein, voilà. Donc c'est aussi un des intérêts de ces recherches, c'est qu'en fait on dépasse le cadre même du sujet qui était les bons enfants, ou le cadastre à la Javi, ou le cadastre à Toram Haute, hein, c'est le même sujet. Et à Toram Haute, il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de documents. Donc là, je vais pouvoir là aussi bien exploiter le sujet. Et donc, je vais continuer à travailler là-dessus, mais j'en parlerai évidemment au fil du temps, puisqu'on reviendra donc, voilà, au fur et à mesure. Voilà. Donc, je livrerai les réponses après mes conférences, voilà, hein, pour ne pas dévoiler, hein, tout le, tout, tout tout le travail que j'ai fait, vous savez, c'est toujours très particulier parce qu'en fait, on n'est jamais sûr de trouver la réponse. Et quand on l'a, on est content et on a envie de la garder. C'est très curieux comme sentiment, vous voyez. Hein. En fait, je n'ai pas envie de dire ce qu'il en est. Voilà. Après, j'ai trouvé aussi une autre hostellerie à Pépin, hein, qui était au Pélican Royal, hein, donc avec une enseigne qui était le Pélican, et qui faisait suite à une autre enseigne, qui c'était la Botte Royale. Vous voyez, la Botte Royale. Voilà. Donc on avait sans doute une botte qui était dessinée, une grande botte qui était dessinée sur l'enseigne de cette taverne. Voilà, voilà, c'est pour... bon, je ne vais pas faire la conférence, les conférences sur ces sujets, mais enfin voilà. Donc c'est, j'invite à toutes les personnes de Pépin, de Thorame-Haute et de la GEU de venir pour en savoir plus sur ce sujet.
Est-ce que vous avez déjà les dates de ces conférences?
Alors, les dates, je les ai pour certaines. Donc, j'ai dit le 1er novembre pour la Javi, hein, donc 10 heures. Pour Pépin, c'est en octobre. Alors, c'est la date précisément, c'est... il faut que je regarde. Voilà, la conférence de Pépin, c'est le 22 octobre, voilà, donc à 18 heures. Pour celle de Thorame-Haute, je ne l'ai pas. Je crois que c'est en octobre aussi. Voilà, mais après, ça sera sur notre site internet de toute façon. Hein, on fera une affiche avec un résumé voilà, qui sera réalisé. Mais là, il faut que j'avance un peu sur les conférences déjà, parce qu'il faut que j'ai un peu de matière hein, pour savoir. Pour faire un résumé, il faut quand même savoir où on va. Voilà. Donc, mais ça sera fait cette semaine. Donc j'invite évidemment. Mais de toute façon, de manière systématique, à regarder notre site internet, parce qu'il arrive aussi quelquefois qu'une conférence peut être reportée ou annulée pour des raisons évidemment indépendantes de notre volonté, hein, mais il peut se trouver que la personne, le conférencier, soit malade, qu'il y a un problème de circulation, etc. Donc toujours regarder sur notre site internet pour être sûr de... voilà, pour éviter de venir pour rien, quoi, voilà.
Oui, et le site internet, donc, c'est archives04.fr.
Voilà, hein, tout simplement. Donc ça, c'est un réflexe à avoir, y compris d'ailleurs pour venir en salle de lecture, car il arrive aussi que notre salle de lecture, qui est normalement ouverte du lundi au vendredi, soit fermée pour une journée ou une demi-journée, en raison, par exemple, d'une action culturelle avec des élèves. Hein, quand on a 80 élèves dans le service, eh bien, on ferme le service pour des questions que je pense que tout le monde peut comprendre. Voilà, donc il faut toujours vérifier, parce qu'il arrive aussi que des personnes se heurtent le nez contre notre porte parce qu'elles ont l'habitude de venir, parce qu'elles n'ont pas fait attention et elles ont oublié de regarder sur notre site internet. Voilà. Donc il faut toujours regarder. Voilà. En plus, on y trouve beaucoup de ressources. Hein, donc c'est l'occasion aussi de découvrir un petit peu ce qu'on fait aux archives, ce qu'on met en ligne, nos numérisations. Voilà. Donc c'est toujours profitable hein, pour le public de consulter notre site pour, vous savez, c'est un peu, on fait quelque chose pour on a une raison de faire quelque chose, puis finalement, on découvre autre chose. Voilà, ça, c'est le principe même de la découverte.
Et c'est toujours profitable d'écouter les émissions sur Fréquence Mistral pour avoir un avant-goût de ce qui nous attend à venir les mois prochains et des coulisses de ces événements que vous préparez.
Exactement, vous avez tout à fait raison. Et donc, et nous, on est toujours très contents de venir, hein, parce que ça fait maintenant des années que cette émission a lieu, hein, donc avec quelquefois une périodicité qui est un peu variable, en fonction aussi de notre emploi du temps. Mais on est très heureux d'échanger avec vous et que les auditeurs puissent effectivement découvrir les archives départementales, qui, je rappelle, est le service culturel le moins connu des Français. Hein, je crois qu'il y avait une enquête qui avait été faite il y a quelques années où c'était à peine 20% des Français qui connaissaient l'existence d'archives départementales. On connaît les archives, vous voyez, parce que l'archive, ça dit quelque chose, évidemment, mais on ne sait pas, on ne connaît pas le système français des archives. On connaît les archives nationales, éventuellement, mais on... Voilà. Donc c'est par rapport aux musées, par rapport aux autres acteurs culturels... c'est toujours important d'en parler, de montrer qu'en fait que ça joue un rôle central, aussi bien pour les questions des droits des personnes, les questions des droits des administrations, puisqu'on conserve, maintenant on est à combien de kilomètres d'archives?
On est à 11 kilomètres,
un peu plus peut-être, hein, parce qu'on rentre pas mal en ce moment avec notre extension. Donc ça c'est important, c'est notre mission première, hein, on est d'abord des conservateurs, Mais on est aussi, on a aussi pour but de mettre en valeur ce qu'on conserve, sinon ça n'aurait pas de sens, de conserver pour conserver. Et donc c'est toujours important d'évoquer tout ce qu'on fait. Donc, comme l'a dit Madame Brunel tout à l'heure, toutes les expositions qui sont proposées, actuelles et à venir. Et on ne parle même pas du programme d'année prochaine et des années d'après, hein, qui sont déjà en gestation. Voilà. Mais voilà. Donc, notre but, c'est évidemment de parler de tout ça, de mettre en valeur nos fonds. C'est quand même un effort important du conseil départemental, hein, de conserver tous ces documents, avec en plus une extension, hein, qui a été ouverte, inaugurée l'année dernière, donc, qui avait été ouverte en mars 2025, voilà, et inauguré en fin d'année. Donc là, tout ça, ça joue un rôle. Et donc, il faut que les gens puissent en profiter, d'autant plus qu'on est gratuit. Voilà, hein, c'est aussi une chose très importante. Hein, c'est-à-dire qu'on peut venir voir nos expositions gratuitement. Et on en, tous les jours, hein, hier, j'entendais des cris d'enfants dans le hall. Vous voyez, tous les jours, on a en ce moment des familles qui viennent, hein, ou des personnes. Voilà, donc on a une fréquentation permanente pour les expositions. Ce sont des personnes qui ne viennent pas pour consulter les archives, hein, c'est vraiment deux choses différentes, mais qui viennent découvrir un peu l'histoire, en l'occurrence, des archives, du département, à travers les archives, et de beaux documents aussi, hein, de voir de belles choses, parce que on est un peu comme les musées, nous, on a des très très beaux documents. La bibliothèque, d'ailleurs, prochaine exposition à la bibliothèque, ça sera l'occasion de montrer de très très beaux documents. Je pense que déjà, vous avez préparé une sélection, Madame Brunel, hein, donc...
Tout à fait.
Parce que c'est bientôt, hein. Donc, on a de très très belles choses à montrer, aussi bien pour la photographie, avec la plus belle collection de photographies du département, ancienne, hein, forcément, puisque c'est aussi notre but. Voilà, donc il y a plein de choses à découvrir. Venez aux archives. En plus, vous pourrez partir avec un petit ouvrage gratuit. Hein, puisqu'on est non seulement on est gratuit dans l'accès, mais on est aussi gratuit pour certaines publications qui ont trait directement à nos expositions. C'est vrai pour les archives, c'est vrai aussi pour l'exposition à la cathédrale Saint-Jérôme, avec un catalogue qui part comme des petits pains, vraiment, comme chaque année d'ailleurs, hein, donc voilà, donc on est très contents que ça se passe comme ça. Et puis nos fréquentations d'élèves, hein, puisque on a aussi mais ça c'est très ancien, ça date des années 50, hein, le premier service ouvert pour les élèves, ce sont les archives nationales, hein, qui ont créé ce système là et les autres n'ont fait que nous imiter, en fait, hein, tout simplement. Voilà, et donc on est autour de 2700 à 3200 élèves par an. On dit 3000 à peu près, hein, pour prendre une moyenne, si on fait une moyenne sur plusieurs années. Voilà, donc on essaie de remplir toutes ces missions. C'est vraiment dans notre ADN, hein, c'est vraiment une de nos caractéristiques, en plus du travail normal des archives qui sont conservées, collectées et classées. Voilà.
Oui, il s'y passe beaucoup de choses aux archives départementales et on y revient dans un instant, juste après cette pause musicale. On écoute les Carpenters, Yesterday Once More.
When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every whoa-whoa still shines. Every shingle. it's yesterday once more.
Et nous sommes de retour avec notre émission mensuelle Histoire d'archives en compagnie de Jean-Christophe Labadie et Marie Brunel Marchetti, directeur et directrice adjointe des archives départementales des Alpes de Haute-Provence. Alors, on a évoqué l'actualité des archives départementales avec les expositions que vous pouvez aller voir, mais également les conférences et tout ce qui se prépare pour les semaines et les mois à venir. Il a été question de l'exposition pour le concours photo dont vous nous aviez parlé il y a quelques mois. Comment ça s'est passé alors? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de candidats? Comment avez-vous effectué le choix et le choix du lauréat?
Alors, c'est vrai que dans le cadre de la célébration donc des 200 ans de l'invention de la photographie, nous organisons aux archives départementales une exposition donc du 18 septembre au 30 octobre 2026, qui s'intitule « Capter la lumière, l'aventure de la photographie en Haute-Provence ». Pour préparer cette exposition, nous avons évidemment abondamment puisé dans des très riches fonds photographiques, mais l'objectif était aussi de mettre en valeur la photographie contemporaine. C'est pourquoi nous avons organisé un concours photo, qui a eu quand même un beau succès. Nous avons eu 17 candidats qui chacun ont participé avec 3 photos. Donc il a fallu départager toutes ces propositions artistiques qui parfois étaient surprenantes, étonnantes. Et donc nous avons réuni un jury qui était composé de notre directeur Jean-Christophe Labadie, de moi-même, de Madame Doléon, notre chef du service des publics, et de Alain Delceau, donc, qui est élu au conseil départemental des Alpes de Haute-Provence. Donc nous étions tous réunis dans notre salle de conférence qui s'est retrouvée tapissée par tous les tirages de photographies. Voilà, ça faisait quand même... C'était quand même assez impressionnant, il faut le dire. Nous avons bien sûr anonymisé, enfin toutes les candidatures, toutes les photos étaient anonymisées. Donc on s'est vraiment concentré sur la qualité des photos, ce qui était représenté, ce que les photographes souhaitaient mettre en valeur à travers leur création. Et nous avons difficilement sélectionné 3 images. Je dis difficilement parce que elles étaient quand même, il y avait beaucoup de créations qui étaient de très belle qualité. Mais à un moment, il a quand même fallu faire un choix. Et donc, nous avons 2 lauréats, parce qu'il y en a un qui a réussi à nous séduire 2 fois. Voilà, nous avons Raymond Angeloni qui a réussi à nous proposer 2 photos, 2 très belles photos. Une photo de la chapelle de l'ancien hameau des Agneliers. Et une photo du lac d'Alos. Et nous avons aussi Quentin Desideri, donc, qui nous a séduit avec une très belle photographie d'ancrage. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Monsieur Angeloni, lui, sa technique, c'est du numérique. Donc voilà, des techniques vraiment actuelles, le top de la technologie, voilà, qui suit l'évolution des techniques photographiques. Et Monsieur Desideri, qui est photographe professionnel, lui travaille en argentique, en noir et blanc. Et en fait, il sait aussi adapter sa technique à ce qu'il veut montrer. Voilà, je vous invite vraiment à venir voir sa photo, sa création dans le cadre de cette exposition, parce que mais justement, en préservant, en travaillant toujours avec des techniques pas anciennes, mais des techniques de photographie. En fait, différentes techniques permettent d'exprimer différentes choses, différents points de vue, exprimer la lumière de manière très particulière. Donc on a quand même des exemples très intéressants de ce que l'on peut produire à travers l'art de la photographie.
C'était une première, ce concours photo ?
Oui, c'était une première. C'est vrai que c'est intéressant justement pour faire connaître les archives aussi, de montrer que, bien sûr, nous mettons en valeur et en scène le patrimoine du département, qu'il soit documentaire, qu'il soit papier, photographique ou des objets ou différents supports. Mais il faut aussi mettre ça, enfin tout ce patrimoine en lien avec le vivant, la vie, ce qu'il se passe actuellement pour justement créer une résonance et favoriser l'appropriation par l'ensemble des publics de ce patrimoine et montrer que les créations d'aujourd'hui ont vocation aussi à devenir du patrimoine.
Avec un thème en particulier pour cette année, vous aviez choisi capter la lumière. L'idée, c'était de rester assez générale ou vous avez mis du temps à choisir ce thème en particulier ?
En fait, capter la lumière, c'est l'essence même de la photographie. C'est ce qui l'a défini, c'est justement arriver à fixer une image, ce que l'on voit, en utilisant la lumière. Et c'est justement parce que c'est Monsieur Labadie qui avait arbitré sur le titre, parce que justement ça lui semblait l'essence même justement du procédé photographique. On va utiliser la lumière comme un médium, comme si c'était un pinceau pour fixer une image.
Est-ce que l'idée, ce serait de renouveler un concours, peut-être photo ou autre, prochainement ou l'année prochaine ?
Pourquoi pas, effectivement. C'est toujours l'occasion. Là, c'était effectivement dans cette affaire, c'est faire le lien entre des photographies anciennes et des photographies contemporaines. C'est aussi, finalement, d'une certaine manière, commander des archives à conserver, puisque du coup, ces photographies vont être conservées aux archives départementales. Donc, pour celles et ceux qui ont participé au concours, donc on se crée, puis c'est pas les quelques photographies qui vont nous submerger dans nos 11 ou 12 km de fond. Voilà, donc c'est aussi, faut jamais oublier qu'en fait, on conserve aussi des choses très contemporaines. On a des archives qui ont à peine 5 ans d'âge pour les archives publiques, mais on conserve par exemple des affiches. On a comme ça donc un fonds d'affiches très important, et les affiches d'aujourd'hui, hein, qui sont produites par les associations, etc., ben une partie, celles qui nous arrivent jusqu'à, ce qui arrive jusqu'à nous, sont conservées dans nos fonds. Donc il faut jamais penser que archive veut dire simplement ancien. Vous voyez, en fait, on a ce qu'on appelle des archives contemporaines, on a des archives privées, on a des archives de toute nature, hein, quels que soient les supports, du papier, de la photographie.
Des archives électroniques aussi.
Des archives électroniques. Hein. Donc on a tous les types de supports, y compris des supports très récents, y compris des documents très récents qui peuvent être produits, qui peuvent avoir été produits avant-hier, hein, donc qu'on conserve aussi. Donc il faut pas. Il y a même une époque, il y avait des services d'archives qui conservaient, vous savez, les tracts conservés, qui étaient, qu'on retrouvait dans les boîtes aux lettres, hein, qui faisaient par jour. On l'a fait, ça a été fait aussi aux archives départementales dans les Alpes-de-Provence, mais pas de manière très régulière et pas de manière continue. Mais ça se faisait aussi, oui, pour justement conserver toujours une trace de ce qui se produit, puisque c'est ça l'objectif des archives, c'est de conserver des traces avec les supports qui nous concernent, évidemment, de l'activité humaine, hein, quelle qu'elle soit, culturelle, économique, politique. On a une collection absolument ahurissante d'archives politiques. On a des milliers, milliers d'affiches, vous voyez. Donc on a comme ça des fonds très très importants que d'ailleurs les spécialistes utilisent, hein, nous demandent à consulter, à prêter, à envoyer des copies numériques, etc.
Mais pour revenir sur l'histoire de, enfin sur votre question sur les concours organisés dans le cadre de nos expositions, mais nous avons un concours qui est toujours en cours autour de l'exposition Les Archives entrent en scène, dans laquelle je vous rappelle qu'il y a 33 répliques de films qui se sont cachées dans les panneaux d'exposition et dans le catalogue. Et donc, le concours est toujours ouvert. Vous pouvez toujours participer en scrutant les textes, en les lisant attentivement, en découvrant toute l'histoire des archives, tous les aspects les plus passionnants de nos métiers et des archives les plus insolites du département. Voilà, vous pouvez découvrir ces répliques et participer au concours. Voilà, on aura des lots à gagner.
C'est vrai que... Alors moi-même qui ai écrit un texte, j'ai introduit une citation, mais j'ai oublié laquelle.
Moi, je m'en souviens.
Voilà, mais Madame Brunel, je sais que Madame Brunel et Madame de Léon ont conservé précieusement la trace de ma citation qui vient d'un film, en fait. Hein, parce que c'était
c'était les répliques de film. Hein, tout à fait.
Voilà, donc oui, c'est amusant, hein, d'avoir de coller comme ça dans un texte pour expliquer une histoire, en fait, hein, pour raconter une histoire, de coller, de faire des petites références comme ça. La prochaine fois, on essaiera de faire dans la littérature, hein, je sais pas.
Oui,
mais
pourquoi pas.
On peut multiplier, hein, de toute façon, puisque même ceux qui écrivaient utilisent des fois des références, ben on s'amuse aussi à le faire. Voilà, donc c'est voilà le but. Parce que quand vous dites qu'il y a des concours, mais il y a aussi les jeux, hein, en fait, dans l'exposition, il y a aussi beaucoup de jeux. Qui sont pour tous les âges, hein, des jeux assez simples de reconnaissance tactile, de matériaux utilisés par les archives, hein, ça va du cellulo ou d'archives ou de support d'archives, hein, du celluloïde, mm-hmm, par exemple pour la photographie, du papier, du parchemin, etc. Hein, donc voilà, donc tout ça a été préparé donc par la modèle à qui je vais laisser la parole puisqu'elle va l'expliquer.
Non, et ça permet aussi de briser un mythe où souvent on nous dit non, les archives il faut pas toucher. Il faut toucher avec des gants et c'est très précieux. Alors oui, il y a des archives qui sont effectivement très délicates et qu'on manipule avec beaucoup de précautions. Mais c'est vrai que dans les dispositifs pédagogiques qui sont inclus dans cette exposition, vous avez quand même la chance, le plaisir de venir découvrir de façon tactile les différents supports des archives. Ça peut être du parchemin, ça peut être des papiers de différents grammages, voilà les fameux papiers chiffons dont parlait monsieur Labadie tout à l'heure. Comme ça, vous avez un jeu de reconnaissance à l'aveugle des différentes textures, des différents matériaux qui peuvent composer les archives. Nous avons aussi pour les enfants le petit train des archives. Voilà, pour remettre dans l'ordre les différentes étapes du traitement archivistique. On a aussi un puzzle qui amuse aussi les plus grands, hein, il faut bien le dire. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'élire votre archive préférée, voilà, de manière à ce qu'on puisse remettre en valeur les archives, les documents qui ont particulièrement plu au public.
Vous aviez parlé de ce concours avec des citations de films. Est-ce qu'il y a une date limite pour ce concours-là ?
Alors, je crois que c'est juin 2027.
Oh, ben, il y a le temps.
Oui, il y a encore un peu de temps, tout à fait.
Tout le long de notre exposition, hein, puisqu'elle se terminera en fin 2027, hein, c'est bien ça.
Voilà.
Et donc, il faut terminer un peu avant pour pouvoir faire un résultat, quoi, en fait.
Notre objectif, c'était de remettre les lots pour les Journées du patrimoine 2027.
Voilà, donc venez aussi participer donc à ce jeu qui n'est pas très difficile, hein, c'est comme si assez difficile en fait de retrouver les citations, c'est difficile.
Ça dépend, ça
dépend de la culture qu'on a, ça dépend parce que ça peut, c'est évidemment dans le cinéma, mais ça peut être.
Il faut avoir les références.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait là, oui, ça peut être dans des films un peu confidentiels comme dans des films très grand public, plutôt grand public d'ailleurs. Hein.
Non, on a fait plutôt dans le grand public, mais c'est vrai qu'il y a des.
Mais dans des gens différents quand même.
Voilà. C'est ça.
Voilà, donc après, il faut avoir une très bonne culture cinématographique. Mais c'est très amusant, hein. C'est très amusant à faire quand on l'écrit, puisqu'il faut réussir à trouver la bonne citation et la coller au bon endroit, ce qui est quand même pas facile. Donc ce qui fait qu'une fois d'ailleurs, c'est peut-être un peu artificiel, donc c'est peut-être plus facile à trouver. Voilà. Moi, la mienne, il paraît qu'elle est introuvable. Donc ça veut dire qu'elle était bien mélangée, c'est bien fondu dans le décor. Mais après,
à tel point que vous l'avez vous-même oublié.
Mais non, mais en fait, en réalité, j'ai fait un écrit cinématographique. En fait,
votre texte, il est écrit sous forme de scénario.
C'est
donc
un scénario,
c'est vrai que
ça
s'intègre
très facile.
Extrêmement
voilà,
bien.
C'était ça le truc, en fait. Hein, puisque dans un scénario, c'est très facile de coller une référence cinématographique, puisque c'est un scénario de film. Voilà. Donc voilà. Et on parlait des enfants, hein, donc effectivement, des jeux pour les enfants aussi, parce que les archives, c'est pas simplement un public âgé qu'on retrouve aussi dans nos conférences, hein, évidemment, hein, puisque des personnes qui ont le temps de venir, qui ont l'intérêt pour le patrimoine, qui s'intéressent au plus près aussi de la vie locale, hein, de leur histoire locale, etc. Mais il y a aussi les enfants, hein, c'est très important. Alors on fait beaucoup beaucoup de choses en fait pour les enfants. On fait des ateliers pédagogiques classiques, avec des thématiques, hein, autour de l'eau, autour du village, la vie du village. On fait par exemple pour les villages hier et aujourd'hui, vous voyez, des photographies anciennes comparées aux mêmes photographies, enfin aux mêmes prises, hein, de même angle,
point
même
de ça, vue,
de photographie contemporaine, voilà, ou par rapport avec des cartes postales anciennes, etc., autour de l'eau. Enfin, on a des thématiques comme ça, qui sont l'agriculture, les paysages, etc. Donc ça, c'est très classique. Ça se fait soit aux archives départementales, soit directement dans les classes, et ça se fait souvent dans les classes en fait, hein, c'est-à-dire que ce sont nos deux médiatrices qui se déplacent pour aller directement agir, proposer l'atelier dans les classes avec des documents pédagogiques évidemment, hein, des documents d'archives. Alors ce sont des copies, hein, évidemment. Quelquefois elles ont l'autorisation d'amener des originaux. Mais c'est quand même assez rare, parce qu'il y a toujours un risque, etc. En même temps, on prête aussi des documents pour des expositions. Hein, donc, des fois, les documents sortent des dépôts d'archives. Voilà. Mais donc ça, c'est le plus classique, en fait. On fait aussi, on propose d'ailleurs, sous forme d'archiclasse, des sélections de documents autour de thématiques. Et en général, on a un à deux archiclasses par an, souvent liées d'ailleurs à nos expositions, hein, à notre action culturelle, puisque le principe toujours, c'est d'avoir des effets de levier. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, on ne fait pas pour une seule chose. Hein, c'est-à-dire qu'on fait pour une exposition, une lecture d'archives, une conférence, un atelier pédagogique, un document, une publication, qui peut être soit une publication, une sorte de petit catalogue d'exposition, soit tout simplement un recueil de documents à vocation pédagogique. Donc et tous ces documents, aussi bien d'ailleurs ces petits catalogues d'exposition gratuits que ces documents archiclasse sont téléchargeables sur notre site internet, hein, donc on peut les récupérer, et je vous garantis que il y a des sujets tout à fait intéressants qui couvrent à peu près toutes les périodes, à peu près toutes les thématiques, que ça soit sur la guerre, que ce soit sur l'activité économique, sur le paysage, enfin voilà, vraiment le choix n'est pas infini, évidemment, hein, puisque par définition, on va en sortir d'autres sur des thématiques qui n'ont pas été abordées. Voilà, mais il y a vraiment beaucoup de choses à récupérer. Donc il y a ce... Et puis on organise aussi, comme par exemple chaque année, des rencontres avec des professionnels et des élèves. En particulier, ça, on ne remerciera jamais assez le tribunal judiciaire et le personnel du tribunal judiciaire à travers son président, son procureur, ses substituts, ses juges qui viennent aux archives départementales pour expliquer à des quatrièmes, à des troisièmes ou à des lycéens de première ou terminale ou de seconde ce que c'est que la justice, ce que c'est aussi la protection des mineurs, ce que c'est que les questions liées évidemment à des sujets d'actualité hein, que je ne vais pas évoquer ici parce que je pense que tout le monde voit de quoi il s'agit. Voilà, donc tout ça c'est aussi important et on le fait depuis maintenant plusieurs années. Chaque année, on peut d'ailleurs en parler parce que ça c'est pour les élèves, pour les enfants, mais on fera aussi, comme on a fait avant le départ de l'actuel président du tribunal hein, qui part donc je crois cette semaine pour Nancy. Eh bien, on lui avait proposé de faire une conférence, de prononcer une conférence aux archives départementales. Et l'année prochaine, eh bien, le procureur a accepté aussi de venir faire une conférence pour les adultes, cette fois-ci, hein, aux archives départementales, pour expliquer en fait ce que c'est que la justice, son métier, son activité, etc. Voilà, tout ça, vous voyez, parce qu'on parlait tout à l'heure, effectivement, avec la photographie, d'avoir un pied dans l'actualité. Le but aussi, notre but, et c'est partagé par d'autres services d'archives départementales. J'en ai parlé récemment à la directrice des archives de Vaucluse, qui trouve que c'est une très bonne initiative de faire venir des professionnels pour expliquer quelle est leur activité, leur métier, leurs difficultés hein, aussi. Hein, le président du tribunal n'a pas caché les difficultés qu'il rencontrait dans l'exercice de son activité, pour expliquer aussi au public. Et puis je vous garantis que je reprends la conférence sur du président, la subtilité, la clarté hein, du propos qui permet de remettre en perspective en fait hein, le fait, vous voyez, toujours ce lieu commun, la justice ne va pas assez vite, la justice, etc. En fait, d'expliquer pourquoi c'est comme ça, hein, pourquoi il y a ce temps judiciaire qui est long. Voilà, tout ça c'est très important et donc on va le faire aussi. Alors on le fera l'année prochaine avec le procureur de la République, mais on va essayer de le faire peut-être aussi avec d'autres, pourquoi pas, hein, avec d'autres. Voilà, qui pourrait venir expliquer, comme on l'avait fait avec des agricultrices à l'époque, il y a quelques années, avec la médiathèque départementale, aux archives, justement pour expliquer un peu leurs difficultés, leur travail, mais aussi leurs difficultés et aussi leur bonheur. Hein, c'est pas que la vie n'est pas. Le travail n'est pas qu'un problème de difficulté à surmonter, mais aussi leur bonheur de faire de telles activités, etc. Voilà, donc on essaie toujours d'être de plein pied, vous voyez, dans le. On va essayer d'être de plus en plus de PMP dans la vie locale, en l'occurrence, hein, et donc de faire résonner le passé et le présent, et finalement peut-être de dégager des voies d'avenir pour notre service, pour les archives départementales.
Et oui, c'est important de rappeler tous les partenariats qui permettent de maintenir ces activités, de les actualiser. Je rappelle pour celles et ceux qui seraient intéressés que toutes ces informations, vous pouvez les retrouver en ligne sur archives04.fr. Et puis donc, si vous voulez aller voir les photographies des lauréats du concours photo, ben je rappelle déjà leurs noms, hein, Raymond Angeloni et Quentin Desideri. Ces photos-là, on peut les retrouver, c'est dans le hall directement,
Elles seront dans le hall, oui, avec l'exposition, à la suite de l'exposition, donc le Capter la lumière.
Parfait. Voilà, donc vous retrouvez toutes ces informations en ligne. Et puis je peux aussi également donner le numéro de téléphone 04 92 36 75 00. 04 92 36 75 00. Il est important le numéro puisque c'est celui-là qu'il faut contacter si on veut réserver par exemple pour les... C'est pas celui-là, du coup, aussi.
Si, c'est celui-là, mais il n'y a plus de réservation.
Ah oui, voilà, ah oui, c'est vrai. Il faut être bien de le rappeler.
On a arrêté le système des réservations. Voilà, donc si vous voulez venir assister aux conférences ou aux lectures d'archives, venez tôt, à partir de 17h30.
Oui, c'est l'ouverture des portes, 17h30, voilà. Ouais.
Premier arrivé, premier servi. Voilà,
voilà, oui, ça, parce qu'en fait, c'était très compliqué, ça posait des problèmes de confidentialité, d'abord des informations personnelles, hein, déjà. Par ailleurs, on avait aussi les réservations des personnes qui ne venaient pas, et du coup, on empêchait d'autres personnes qui auraient souhaité venir, en leur disant, mais non, ça y est, il y a déjà, on était à 70 personnes, à peu près, de réservation. Hein, on se limitait à 70 personnes, donc, et en fait, on s'apercevait qu'il y avait 20 places, vous voyez, de livres. Donc, du coup, on arrête le système, on revient au système d'avant, et on verra bien en fonction du public. Et si jamais il y a beaucoup de monde, on reprogrammera la même conférence. Hein, ce qu'on a déjà fait d'ailleurs pour l'élu abandonné, par exemple. On n'a pas évoqué, mais on va publier normalement en fin d'année un ouvrage sur l'élu abandonné à partir de la thèse
De Yanis Nassef.
Oui, de Yanis Nassef, hein, que Mme Brunet est en train de relire attentivement pour que ça soit le plus fluide possible pour notre public. Donc là, c'est aussi un rendez-vous important, puisque ça sera la grande publication de l'année. Voilà. Mais ça, on aura aussi l'occasion d'en reparler.
Et ça y est, j'ai une pression incroyable sur la publication de ce livre. Voilà. Merci, Monsieur Labadie.
Parmi les rendez-vous importants, on peut également rappeler les journées européennes du patrimoine. Est-ce que vous voulez rappeler les dates,
Alors, les journées du patrimoine, c'est le troisième week-end de septembre. Voilà, il y a une programmation sur l'ensemble du département et en particulièrement à Digne. Voilà, nous aurons donc une conférence inaugurale le vendredi 18 septembre, animée par Élise Henrion sur un cimetière juif communautaire oublié, la fouille archéologique du cimetière juif médiéval de Manosque. Ensuite, le samedi, vous pourrez visiter en visite guidée les archives départementales, aller là où d'habitude le public ne va pas, ce qui est toujours intéressant. Nous avons des ateliers autour de la reliure et de la restauration, donc par du personnel des archives départementales, mais aussi par une relieuse restauratrice professionnelle. Et le dimanche, donc dimanche 20 septembre, la visite guidée par Jean-Christophe Labadie, directeur des archives départementales, de l'exposition Jeanne d'Arc à la cathédrale Saint-Jérôme.
Merci Marie Brunel Marchetti et Jean-Christophe Labadie, directrice adjointe et directeur des archives départementales des Alpes de Haute-Provence. On vous retrouve bientôt pour revenir sur l'actualité, la prochaine actualité des archives départementales. Et d'ici là, eh bien, on vous souhaite une excellente journée à l'écoute de Fréquence Mistral.
Merci, bonne journée à tous.
Bonne journée à tous.
Au revoir.